Bonjour à tous et bienvenue sur Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Je suis Elisabeth Madoré et pour cet été, je vous propose d'aller à la rencontre de 5 femmes qui font vivre le littoral à l'année. Ce soir, et quand vous le voulez, je vous donne rendez-vous avec Fanny. Alors Fanny, je l'ai croisée sur un spot de surf l'été dernier et en échangeant rapidement à l'eau, on s'est rendu compte que nous avions les mêmes ports d'attache. D'un côté en Méditerranée, et puis ici sur l'Atlantique. Alors forcément, ça rapproche. Fanny est facilitatrice graphique, et dans cette conversation, elle nous parle de sa profession, la façon dont le dessin est entré dans sa vie, les sujets qu'elle défend avec attachement et sa vision de la ville de demain. Un épisode enregistré au cœur de l'été, qui j'espère vous permettra de méditer sur nos futurs souhaitables et durables. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Je suis ravie, vraiment super contente qu'on trouve ce moment pour pouvoir enregistrer cette conversation cet après-midi. Parce que tu vas nous raconter un peu tout ce que tu fais. Mais on a la chance de t'avoir aujourd'hui du côté de Carnac pour pouvoir enregistrer. Mais avant que tu nous racontes un peu tout ce que tu fais, j'aimerais savoir comment tu vas en ce moment.
Super, mais oui, je suis aussi ravie. Merci beaucoup. Et d'être ici à Carnac, où j'ai grandi, où j'ai passé beaucoup de temps de mon adolescence, donc ça fait vraiment plaisir. Ça va bien, là c'est le début de l'été, donc toujours un plaisir d'être en Bretagne à ce moment de l'année.
Trop bien, parce que bon, il va falloir peut-être qu'on dise les choses, mais on s'est rencontrés pas très loin d'ici, l'été dernier, en faisant une session surf, totalement... Je vais dire improbable, mais en même temps, c'est ça la vie, non? Et tu oscilles entre deux littoraux.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, alors en fait, moi je suis basée à Cabrils, c'est dans le Maresme, c'est une région au nord de Barcelone. On est à 30 minutes, 40 minutes de Barcelone. Donc c'est ma résidence principale aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai aussi un pied en Bretagne. J'ai grandi à côté de Vannes, à Plescop exactement, et je travaille beaucoup avec les acteurs des transitions dans l'Ouest, sur la côte atlantique, mais aussi en France, à Paris, donc c'est vrai que je suis souvent ici, donc beaucoup dans le train. Mais je reste basée à Barcelone où j'ai fini mes études en fait. J'ai étudié ma dernière année de master là-bas. Et donc c'est un chouette endroit aussi, aussi au bord de la mer et toujours ne pas trop s'éloigner de la mer. Ça c'est l'idée aussi.
Est-ce que tu pourrais donc on a Plescop, Vannes, on a parlé de Barcelone. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter, tu viens de dire que tu as fini tes études à Barcelone, un peu ton parcours scolaire, universitaire, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à Barcelone finalement?
Ok. Donc j'ai été jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans à Vannes, donc à Plescop, Vannes. Et ensuite je suis partie en prépa à Montaigne, à Bordeaux.
Okay.
J'ai fait une prépa littéraire, une prépa lettres et sciences sociales, exactement. Ensuite, je suis partie du côté de Sciences Po Rennes. J'avais envie de faire de l'urbanisme à ce moment-là. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'UEP de Rennes. J'étais plutôt droit public, etc. Et c'est vrai que j'ai été attirée par les questions de la ville et comment construire aussi des villes ou les repenser plus durablement et pour une vie meilleure pour toutes et tous. Et c'est dû à ça que je suis partie ensuite faire un an de stage en Australie, en Nouvelle-Zélande. J'étais à Sydney, j'ai fait un stage en urbanisme. Et c'était sympa, mais à ce moment-là, je parlais pas très bien anglais, donc je m'étais pas vraiment rendu compte du type de stage où c'était. Mmh. Je suis arrivée, et c'était en fait un lobby des acteurs de l'urbanisme du New South Wales. Et j'étais pas vraiment alignée, et je me suis dit, attends, t'as 20 ans. Si déjà, à 20 ans, t'es pas vraiment alignée, niveau boulot, ça va pas. J'habitais à ce moment-là à Bondi, donc c'est aussi près de la mer, à Sydney. Et je me suis rapprochée en fait d'un collectif du réseau des villes en transition. Et ça a été un grand coup de cœur. Donc, c'est un mouvement, c'est des mouvements citoyens en fait, des villes en transition, il y en a partout. Qui pop-up un petit peu partout dans le monde. Le mouvement a été créé par Rob Hopkins en Angleterre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'antennes dans le monde entier, dont Sydney, dont Transition Sydney, Transition Bondi. Et ils organisaient tous les mercredis des dîners vegan documentaires. Et là, je me suis fait un peu retourner le cerveau. j'ai pu explorer en fait différentes thématiques. Je me suis rapprochée un petit peu aussi de ces questions. Donc, comment repenser la ville, nos territoires, nos manières d'habiter également. Ça m'a beaucoup aussi influencé dans mes choix ensuite et repenser peut-être de manière plus collective l'habitat, le vivre ensemble. Et en fait, en m'impliquant dans ce mouvement, je me suis petit à petit éloignée aussi de mon stage. J'ai décidé d'en faire un stage court parce que c'était au début un stage long. Je suis partie en Nouvelle-Zélande ensuite. J'ai fait un stage dans une boîte qui faisait du conseil en développement durable pour les organisations, les entreprises. Donc toujours dans cette lignée transition, développement durable. Je suis rentrée en passant par l'Asie du Sud-Est où j'ai fait un stage en permaculture. Donc c'est vrai que ça a été très riche comme expérience. J'en ai profité. Je me suis dit, bon, tu pars à l'autre bout du monde en avion. On va en profiter pour voir différents endroits. On n'y va pas tous les jours de ce côté de la planète, en Océanie. Et je suis rentrée à la maison. J'ai fait ma première année de master à Caen. Donc c'est un master ville durable, justement, sur le campus des transitions à Caen. Passionnant. Mais j'avais un petit peu la bougeotte, quand même. Donc c'était un petit peu dur, le retour à Caen. Je me suis dit, ah oui, j'ai bien envie de continuer... être entourée aussi de différentes cultures, différentes façons de penser. Donc je suis partie faire un double master ensuite l'année d'après à Barcelone pour explorer aussi plus profondément tout ce qui est changement climatique, changements globaux en fait qui affectent nos territoires et nos sociétés. Et je suis restée. Donc ça fait 5 ans maintenant que j'habite dans la région de Barcelone.
Trop bien. Est-ce que du coup Barcelone c'est une ville en transition? Est-ce qu'il y a des collectifs qui sont rattachés à ce principe, ce concept, ce groupe?
Oui, aujourd'hui il y a le mouvement des villes en transition Espagne. D'ailleurs, ils viennent de sortir un documentaire qui s'appelle Alternativas. On a prévu de le projeter à la maison.
Ok, trop bien.
Je dis à la maison parce que en fait aujourd'hui j'habite en collectif aussi. C'est un projet de cohabitat. On est 9. Et on organise de temps en temps ciné-cena en espagnol, donc ciné-repas, justement sur ce concept-là des villes en transition, qui pour moi, ça a été vraiment un marqueur aussi dans mon parcours, qui a orienté mes choix. Et j'ai eu envie aussi de partager mes expériences, de faire du lien avec les personnes, nos voisins, les personnes qui habitent autour de chez nous et de regrouper les gens autour d'une bonne bouffe. Ça marche toujours. Donc le principe de la ciné-cena, c'est qu'on recycle en fait des fruits et des légumes qui vont être jetés. Parce qu'on n'a pas encore de loi en Espagne qui interdit les magasins de jeter et de les envoyer à des assos. Donc on recycle, on cuisine avec les voisins, et on projette un documentaire, et ensuite ça part un peu en débat. La prochaine, ça sera autour du documentaire Alternativas. Il va bientôt être disponible aussi sur Internet, donc je vous conseille d'aller le... Je ne l'ai pas encore vu, donc je fais de la pub sans l'avoir vu. Mais ça risque d'être carrément très, très, très chouette, très intéressant et souvent inspirant. Un peu dans la lignée du film Demain, je pense qu'il a inspiré beaucoup de monde aussi sur comment repenser le monde de demain dans différentes thématiques.
Est-ce que je peux te poser une question? Parce que quand tu me parles de la façon dont tu conçois la ville et tout ce que tu as pu voir grâce à tes études et tes expériences, est-ce que... Alors moi, je viens du domaine du digital. Nous, on parle beaucoup de smart cities. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans cette direction ou est-ce que c'est une autre vision? Est-ce que c'est aussi une ville intelligente, mais intelligente par d'autres aspects peut-être?
Oui, c'est intéressant parce que je pense que la question des smart cities aujourd'hui se rattache à ces questions de comment penser la ville de demain. C'est sûr. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu principal autour des smart cities, c'est la question de comment on va se procurer aussi les ressources pour les mener à bien. Est-ce qu'il y aura peut-être quelques smart cities, si elles ne sont pas déjà smart pour certaines, dans des villes occidentales, ou qui auront aussi les moyens en fait, de les rendre smart. Mais on est sur quand même une pénurie de ressources, de minerais rares, etc. Donc moi, c'est l'enjeu et l'interrogation que je vois aujourd'hui autour des questions de smart cities. Et c'est la même question qui se pose pour les énergies renouvelables et en fait les batteries qu'on a dans les mains, rien que dans notre smartphone. Où on va trouver en fait ces ressources? Pendant qu'Elon Musk spécule qu'on va aller dans l'univers pour aller chercher ses ressources. En attendant, il va aussi falloir des ressources pour aller les chercher. Donc ça me paraît quand même un petit peu improbable. Donc c'est aussi comment on pourrait repenser de façon intelligente et de façon collective et aussi inclusive cette ville. Je pense que la question d'inclusion, c'est important aussi. Est-ce qu'on aura les moyens et les ressources pour offrir en fait une vie digne d'être vécue pour toutes et tous?
C'est des bonnes questions. Je sais pas à quelle ville tu penses en particulier. Moi, j'ai forcément des villes comme Paris, Barcelone, Berlin, New York qui me viennent en tête. C'est vrai que la question se pose finalement de... Est-ce que durablement on peut vivre dans ces villes-là, sachant ce qui, entre guillemets, nous attend sans vraiment savoir tout ce qui peut nous attendre. Mais on ne va pas rentrer dans ce créneau-là qui pourrait être un peu fataliste pour l'été, on va plutôt changer. Est-ce que tu pourrais nous parler depuis que tu as fini tes études, ce que tu fais à Barcelone, dans la région, et puis aussi en France et en Europe, puisque tu as amené à voyager aussi au-delà de la frontière franco-espagnole?
Carrément. Oui, merci. C'est vrai que bon, c'était une introduction, on va dire, sur un lien aussi avec la question de la crise climatique. Et pour moi, c'est aussi un petit peu le fil rouge dans ce que je fais aujourd'hui professionnellement. Donc en fait, à la suite de mon master à Barcelone, j'ai décidé de m'orienter vers la facilitation graphique. Et donc, c'est venu, en fait, parce que moi, à l'université, donc à Sciences Po, et ensuite en master à Barcelone, à l'Université Autonome de Barcelone, je prenais mes notes de façon visuelle. C'était une façon pour moi de me concentrer, de passer un bon moment, en fait, d'être plus actif, de mieux mémoriser mes cours. Et ma directrice de master, elle est venue me voir un jour, elle m'a dit mais ce que tu fais là, c'est un outil intéressant. Moi, je connaissais déjà un petit peu la facilitation graphique. Et elle m'a dit, j'aimerais bien que ça soit en fait le sujet de ton mémoire. Est-ce que ça te dit d'approfondir un petit peu ce sujet-là et justement de faire un pont aussi avec ces thématiques des transitions, des territoires de demain? Étant donné qu'on parle de sujets très systémiques, où il faut regarder, il faut prendre de la perspective aussi et regarder les interactions. Donc, quand on parle de crise climatique et de changements climatiques, de changements globaux qui affectent nos territoires, il faut penser de façon systémique, regarder la vue d'ensemble, the big picture, comme on dit en anglais. Et en fait, représenter aussi les choses de façon visuelle, en utilisant des outils de la pensée systémique, C'est intéressant. Je me suis dit, il y a des ponts à faire. Et c'est aussi un sujet qui demande de mettre tout le monde aussi dans la conversation, d'amener un maximum de personnes à penser ces sujets, que ça soit fait de façon inclusive, j'insiste. Et donc aussi de faire dialoguer des disciplines, des personnes de cultures différentes. Et pour ça, c'est intéressant d'utiliser aussi le dessin ou d'autres façons de représenter pour pouvoir faire des ponts entre le citoyen, le politique, la science également. Donc c'était un petit peu l'idée de mon mémoire. Comment on pourrait encourager le dialogue en fait, sur ces sujets grâce à la facilitation graphique. Et après cette expérience, je me suis lancée en tant que facilitatrice graphique à mon compte. Et aujourd'hui, je travaille avec les acteurs des transitions et de la transformation environnementale et sociale. Je gravite autour des objectifs développement durable de l'ONU. Donc ça peut être un projet plus autour des questions de genre, de questions de biodiversité, agriculture. Et je travaille avec des organisations, donc aussi bien des ONG, des collectivités territoriales, des projets européens. Et en fait, mon rôle, c'est de capturer l'essence des conversations en direct. Donc beaucoup lors de séminaires, de conférences, d'ateliers. Et j'accompagne aujourd'hui également des projets scientifiques, donc les chercheurs, pour illustrer leurs recherches. Donc des fois, ils ont travaillé 20 ans sur un sujet, c'est leur bébé. Et ils t'envoient leurs travaux de recherche. Et l'idée, c'est que t'en fasses une synthèse graphique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Ça me paraît important de sortir la science de cette boîte très fermée. Les chercheurs ont souvent cette frustration en fait, que leurs travaux de recherche ne vont pas forcément être lus ou juste peut-être relus par leurs proches. Et alors que c'est tellement important aujourd'hui qu'on continue à investir aussi pour la recherche sur ces thématiques, même si on en sait déjà beaucoup, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il s'allie aujourd'hui avec des artistes, avec des personnes qui travaillent dans la pensée visuelle. Ça permet aussi de rapprocher la science de monsieur tout le monde, du citoyen, et de parler aussi peut-être plus facilement en politique.
Et je vais te poser exactement la même question que je t'ai posée il y a quelques minutes. Comment tu fais quand tu arrives dans ce type de séminaire, de conférence ? Est-ce que tu as déjà connaissance du sujet, enfin du grand sujet, oui, forcément, mais est-ce que tu sais ce qui va se dire ? Est-ce que tu as le PowerPoint ou le support qui t'a été transmis ? Ou est-ce que quand c'est en live, c'est en direct, c'est vraiment une certaine forme d'improvisation ?
Oui, bonne question. Donc, ça varie quand même beaucoup. Souvent, en fait, il y a une journaliste ou un journaliste, une présentatrice ou un présentateur qui va aussi faire le lien tout au long d'une journée. Par exemple, si c'est une journée de conférence. Par exemple, je prends un exemple. Il y a quelques mois, je travaillais avec le ministère de la Recherche qui organisait une journée autour de la formation à la transition écologique à l'université. Donc, comment on peut essayer de donner aussi un socle commun de connaissances sur ces questions à tous les étudiants? Donc de repenser aussi en profondeur notre système éducatif pour que tous les étudiants qui sortent de licence, ils aient quelques notions sur ces questions. Donc là, à ce moment, pour ce type de conférence, par exemple, je crois que j'avais une idée des questions, peut-être, des noms des tables rondes, des noms des intervenants. Et après, j'arrive le jour J et j'ai... Des fois, ça m'arrive de penser un petit peu, ah tiens, là, peut-être la structure d'un dessin ou de métaphores visuelles. Et je me rends compte que moins je prépare, mieux c'est. Je me rallie à l'école du générative scribing de Kelvy Bird. C'est une Canadienne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle a écrit un bouquin « System Scribing ». Et justement, elle parle de ces principes-là et l'idée d'intervenir en tant que scribe. Scribe, c'est le nom en anglais pour les personnes qui sont lors des procès et qui font des dessins en direct. Même si nous, aujourd'hui, ça s'éloigne un petit peu parce qu'on utilise beaucoup de mots-clés. C'est pas juste dessiner le portrait de la personne, mais c'est représenter, en fait, capturer vraiment l'essence de ce qui se dit. Donc, dans son bouquin « System Scribing », elle a des principes aussi. Elle explique l'importance d'être vraiment présent et connecté avec ce qui se dit et d'être ancré. Donc, c'est compliqué quand on a préparé quelque chose en amont parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'ils vont dire. On a invité trois intervenants et on les a prévenus. Ils doivent répondre à ces trois questions et en fait, des fois, ils partent. Ça prend une autre direction. Et puis après, il y a une participation du public. Donc, ça va poser une autre question qui n'était pas forcément dans cette ligne-là. Donc, c'est important de donner de la place au présent et à l'imprévu. C'est un bon travail d'improvisation. Ça pourrait se rapprocher de quelqu'un qui fait de l'impro en théâtre un traducteur qui passerait de l'anglais au français, par exemple, sauf que moi, je passe des conversations orales écoutées au visuel.
Mais finalement, l'improvisation, c'est beaucoup de technique. Enfin, n'est-ce pas ?
Oui.
Et il y a quand même un certain bagage. Enfin, tu as fait des études, tu es quand même assez alerte sur tous les sujets qui se disent. Donc, on s'improvise pas, tu vois. L'improvisation ne s'improvise pas finalement. C'est vraiment un travail d'accumulation d'expérience. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas si tu partages ma vision, mais...
Oui, c'est vrai que ça aide de comprendre les sujets. Et c'est toujours un enjeu quand ça m'arrive, qu'on m'appelle et c'est un sujet peut-être qui s'éloigne un petit peu ou plus pointu, un peu plus niche. Donc au début, faut s'y mettre aussi. Plus facile quand c'est des projets d'illustration scientifique, même si c'est un peu niche. C'est pas grave parce que j'ai le temps, moi, d'approfondir, d'aller lire. Par exemple, je travaillais avec le réseau, l'association Sustainable Ocean Alliance. Ça fait quelques années qu'on fait quelques projets ensemble sur la question d'exploitation de minerais rares en eau profonde. Justement, quand on parle de tous ces minerais rares qu'on a besoin pour construire nos villes intelligentes. C'est un grand enjeu parce qu'aujourd'hui, en fait, on s'intéresse aux eaux profondes parce que c'est là aussi où il y a beaucoup de ressources minérales. Donc, ils sont venus avec ce gros sujet de l'exploitation des fonds marins en eau profonde. Donc, j'étais là, waouh, ok, un peu la flemme au début. Et en fait, c'est passionnant. Donc, c'est des sujets qui ne s'improvisent pas. Au début, j'ai dû quand même... approfondir un petit peu le sujet. On en a produit des illustrations scientifiques, de vulgarisation scientifique. Et après, on a organisé un webinaire où on a fait venir des pointures aussi sur ces questions-là. Et c'est sûr d'avoir un bagage là-dessus, d'avoir pu approfondir. Ça aide. C'est vrai que demain, si je dois intervenir sur une conférence sur les neurosciences, je sais pas, ça sera plus compliqué quoi, d'être pertinent, c'est sûr.
Ouais, parce que quand c'est en direct, t'as pas la gomme pour y passer, je veux dire, c'est du one shot finalement.
Donc, aujourd'hui, je travaille soit en digital, donc sur tablette, soit directement sur du carton plume, donc des grands panneaux blancs. Et j'adore ça, travailler sur carton plume, c'est chouette parce que justement, tu peux pas effacer. Donc, tu as ton crayon noir. Des fois, je colle un bout de papier blanc. Si, je sais pas, j'ai toujours la phobie des fautes d'orthographe. Je me dis, ah, mais on va le voir. Ce qui fait que c'est vrai, que c'est humain, en fait. Et aujourd'hui, on nous appelle en tant que facilitatrice graphique. Parce que, justement, on veut ce côté-là humain et sensible aussi. Donc, ça m'est arrivé d'avoir des trop belles expériences de conférences où à la fin, en fait, aujourd'hui, donc, je dis que je travaille sur carton plume, sur le mur directement, mais également en digital. Donc là, c'était en ligne. Donc à la fin de la conférence, je montre l'évolution du dessin, donc le time-lapse. C'est une vidéo courte d'une minute où tu vois toutes les idées qui apparaissent. Et puis je l'explique en donnant aussi ce... Moi, je fais un peu un pas de côté. J'arrive avec mes yeux aussi extérieurs et puis je relève les idées clés, ce qui s'est dit. C'était un projet autour des questions de biodiversité. Et la fille qui avait parlé avant, elle était vraiment... elle était émue, en fait, de voir le contenu d'un projet qui aboutissait de 4 ans. Donc, c'était un grand projet européen qui aboutissait. Et oui, tu sentais toute l'émotion. Et ça, voilà, t'es content, quoi. À la fin de la conférence, quand tu sens aussi que... Il y a des yeux qui brillent parce que c'est visible, c'est tangible. Les conversations, souvent, c'est plus facile de les oublier, mais d'avoir quelque chose de tangible et de le voir aussi en couleur, avec une touche de sensibilité, ça touche l'émotion. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi sur des sujets aussi fondamentaux que les sujets de biodiversité, de penser la ville de demain, mais aussi de genre, de féminisme.
Trop bien. J'adore. j'ai pu voir quelques timelapses que tu avais mis sur ton Insta. Ah, en effet, c'est super intéressant et fascinant aussi de voir comment ça se construit. Et bah, tu pars d'une feuille blanche, qu'elle soit virtuelle ou soit digitale ou sur le papier. Et le dessin auquel on arrive, hein, c'est quand même... Waouh! Il y a toujours des surprises, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de... Peut-être... ce que toi, tu vois quand tu vas dans toutes ces conférences, de toutes ces recherches scientifiques, et son application concrète, notamment, tu habites à proximité ou dans une très grande ville, et tu as l'occasion aussi de te déplacer dans des grandes villes, des capitales. Concrètement, après ces conférences, est-ce que tu as vu des évolutions depuis que tu fais ce métier ?
Bah déjà, merci pour... c'est trop gentil pour les retours aussi des timelapses et des dessins. Comment dire ? Il y a quelqu'un qui a dit que je suis optimiste. Mais c'est une stratégie, en fait, dans le pessimisme. Je pense que je me situe là. Je pense réaliste aussi sur l'évolution. Les scénarios aussi sont clairs. On a vu le dernier rapport du GIEC, le 6e rapport qui est sorti il y a quelques mois. Cet été, des événements extrêmes qui font que ça va pas en s'améliorant et que ça touche surtout les populations les plus vulnérables, côtières. Donc pas vraiment très optimiste au niveau global, mais c'est vrai que plus ça va, plus il y a aussi, je pense, une prise de conscience qui est due aussi au fait qu'on va commencer à les ressentir, ces effets du changement climatique. Donc il y a des choses qui se passent et je crois quand même au pouvoir du collectif. Enfin, c'est pas pour rien aussi qu'aujourd'hui je vis en collectif, on est 10 à la maison et je pense qu'à notre échelle aussi c'est important de bien s'entourer aujourd'hui et de peut-être repenser sans avoir l'ambition de changer le monde mais de s'entourer aussi, de rester peut-être inspiré, repenser comment aujourd'hui j'habite, comment je me déplace, comment je m'informe, continuer à douter de l'information qui nous arrive. Voilà, là je m'écarte un petit peu de la question de comment je vois aussi l'avenir des grandes villes. Aujourd'hui, pour revenir là-dessus, sur la question d'habiter les grandes villes, moi j'habite, c'est vrai, à 30 minutes dans une ville, dans une petite ville, où j'ai décidé aussi de sortir de Barcelone. Et puis j'avais besoin de connaître des gens qui habitent peut-être plus en Catalogne, de commencer à parler catalan, parce que là on parle catalan. Et puis c'était frustrant d'être avec des gens qui étaient aussi beaucoup de passage, un monde très international. et d'essayer de me rapprocher de aussi ce qui est la culture catalane. Je commence à parler un peu catalan, d'aller aux fêtes du village. Aujourd'hui, je fais de la chorale. On chante des chants traditionnels catalans. Ça paraît aussi peut-être un peu cliché, mais c'est chouette aussi de se demander mais comment vraiment les gens vivent ici. Plutôt que d'être parachuté, d'arriver peut-être dans un centre urbain c'est vrai que des fois, on a un peu la sensation en arrivant dans le centre de Sydney ou le centre de Paris ou le centre de Barcelone, qu'il y a beaucoup d'endroits qui se répliquent. Mm-hmm. Mais d'aller chercher aussi qu'est-ce qui fait la particularité et l'histoire, la culture de cette ville et de cette, de cette culture.
Non, franchement, c'est super, super intéressant. De toute façon... je trouve ça super passionnant de cette vision qu'on peut apporter à la recherche, cette nouvelle façon de aussi transmettre et de faire partager des savoirs qui peuvent paraître complètement abstraits quand on lit des bouquins ou quand on lit des rapports. Avoir ce visuel aide beaucoup d'entre nous. Je crois que tu avais dit qu'il y a combien, 80 ? Ouais. C'est quoi cette histoire de cerveau qui capte Tu me l'as dit, mais là j'ai oublié le chiffre.
Ouais, 90% de l'information qui est envoyée au cerveau est visuelle. Mmh. Et le cerveau humain, en fait, traite l'information visuelle 60 000 fois plus vite que le texte. Donc c'est vrai que c'est énorme, mais c'est des chiffres que j'avais lus justement avant de faire mon mémoire, et je me suis dit, tiens, ça vaut le coup quand même d'explorer tout cela. Je me rappelle en prépa, je prenais mes cours de philo, on était resté 6 mois sur Spinoza, et je me faisais des schémas comme ça, lettres, avec, puis j'avais mon langage à moi, et puis j'en profite aussi, peut-être que cet épisode soit peut-être une invitation aussi au voyage créatif, visuel, s'il y a des personnes que ça inspire. Peut-être toujours avoir un carnet dans son sac et d'oser aussi être le personnage principal de sa vie et d'aller capter toutes ces inspirations, je sais pas, un podcast intéressant, ce bouquin, ce resto que j'ai fait ou cette balade à la mer, la dernière fois ça m'a trop inspiré. Tiens, si j'en faisais un petit dessin, que j'écrivais quelques mots. Et moi, j'ai une grande boîte à la maison avec un paquet de carnets qui me suivent depuis que j'ai 18 ans. Et j'adore des fois aller... Alors, je regarde 2018, 2019, 2020, tu sais, tu sors ton carnet. Et c'est chouette, il y a des moyens d'aller cultiver aussi. En art thérapie, on parle de cet enfant intérieur que tu as en toi. Et pour moi, c'est aussi une manière d'aller cultiver... tout ça, mais au niveau personnel, pas que professionnel ou la facilitation graphique. Je l'oriente aussi parce que je sais que des personnes vont aller le lire et que c'est l'idée aussi d'aider et d'encourager le dialogue, d'aider à la transmission d'informations. Mais ça peut être aussi un support qui peut t'accompagner au quotidien.
Personnellement, j'écris. Je dessine pas trop, mais voilà. Moi aussi, j'ai cette grande boîte avec des tonnes de carnets depuis plus de 10 ans, ouais. 12 ans, bien. Quoi. Donc, c'est vrai que parfois on se dit, qu'est-ce que j'ai fait il y a 3 ans à cette même date ?
Ah, c'est trop chouette. Et du coup, tu... dans tes carnets, c'est plus de ta vie ? Ou tu parles de toi à la troisième personne ?
Alors, d'habitude, je réponds pas aux questions qu'on me pose. Ah. Non, en fait, je raconte ce qui se passe.
Ok.
Et... parfois il se passe rien et je le raconte aussi, je m'ennuie. Non, tu vois, c'est quoi la vie, quoi, finalement? Qu'est-ce qui compose ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rend heureuse? On pourra faire un épisode là-dessus.
Ah ouais, non, carrément.
non mais c'est vrai que c'est une façon de c'est une façon de personnellement se connaître et de mieux comprendre le monde, je pense aussi, comme dessiner elle l'est, d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur.
Ouais, ça me fait penser, je sais pas si tu connais le livre Le chemin de l'artiste, The Artist Way de Julia Cameron.
Ça me parle.
C'est une américaine et c'est un bouquin qui est superbe. Elle a cet exercice, donc c'est une invitation en fait voilà, pour reconnecter aussi avec ta créativité. Ça fait peur comme ça, tu dis ouais, c'est que pour les artistes ce bouquin et tout, mais non, c'est vraiment justement on est tous
créatifs.
Mais oui. Et l'idée, enfin, un de ces exercices, que t'as des exercices par semaine, t'as un chapitre par semaine, et l'exercice de base, c'est tous les matins quand tu te réveilles, t'écris, donc elle appelle ça les pages du matin, ce serait, t'écris 3 pages. Mais le premier truc, hein, donc tu te lèves avant de prendre ta douche, avant de faire ton yoga du matin, ton petit déj, t'écris 3 pages. Et bon, ça, j'ai des périodes où je le fais, des périodes où je le fais pas forcément, mais c'est vrai que les moments où je l'ai fait, ça permet de... C'est comme si t'avais un petit peu l'esprit plus pur, tu viens de te réveiller, t'as pas encore regardé ton téléphone, t'as pas ouvert les réseaux sociaux, tes envies, des choses où... Et donc en fait tu vas l'écrire une fois, tu vas peut-être parler de ça à quelqu'un, donc tu vas aussi le mentionner, tiens, il y a ce bouquin qui est intéressant, et moi ça m'a permis de me rendre compte que j'avais envie de, moi par exemple, Fanny, de faire de la planche à voile. Et grâce à ça, en septembre dernier, je me suis inscrite à la planche à voile, j'en ai fait quelques cours, et j'ai senti que c'était le fait de l'avoir, tu vois, verbalisé, écrit.
Ouais, non, c'est trop bien.
Alors, c'est un exercice sympa, un livre que je conseille de Julia Cameron, The Artist Way.
Trop bien, merci pour le partage. Fanny, j'ai quelques petites questions que, en général, je pose à tout le monde. Mais la première, peut-être qu'elle sera un peu différente parce que finalement, on a les mêmes attaches. C'est assez drôle. Qu'est-ce qui à la fois fait écho et peut être différent dans ces deux littoraux que tu habites ?
C'est vrai que c'est... C'est différent. Il y a cette question de... Si je regarde le territoire, c'est des villes très touristiques. Donc le tourisme, ça fait quand même... C'est la première économie, par exemple, à Barcelone. Si je pense à Barcelone. Et dans le Maresme en général. Hein. C'est vrai que l'été, les gens fuient. En Bretagne, un petit peu moins, quand même, encore. Mais c'est quand même... Toi, t'habites à Carnac, donc tu sais de quoi je parle, entre l'hiver où tu déprimes presque parce qu'il n'y a pas grand-chose. Parce que forcément, l'économie, elle est tournée sur le tourisme. Alors les gens, ils partent. Et l'été où t'as... Et en vrai, t'as de plus en plus de choses trop chouettes et des personnes qui s'installent et qui créent des... et qui font des projets. Je pense que ton podcast en est aussi un exemple d'initiative sur le territoire. Mais on en veut plus, quoi. Parce que le tourisme prend beaucoup de place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en commun par là-bas. Et c'est compliqué aussi l'accès au logement pour les jeunes. Nos parents nous ont élevés ici, mais est-ce que nous, on aura accès au logement ? Est-ce qu'on devra peut-être s'éloigner, en fait, de la côte ? Alors, nous aussi, on a envie de profiter du littoral, et non, en fait, on devrait peut-être laisser la place aux touristes, qu'on devrait... Ou si c'est pas pour le retrait de... la montée des eaux, ça sera parce que, en fait, les logements sont pas du tout accessibles économiquement... sur la côte. Donc ça, je pense que c'est un grand défi. Mais après, il y a quelque chose qui nous relie aussi, pour finir sur une touche positive, cette connexion aussi avec la mer, avec l'océan. Il nous en faut peu aussi, c'est une balade à la mer. Les gens, ils hallucinent. Moi, je parle souvent aux Catalans, je leur dis, mais les Bretons, quand il y a de l'orage et on sait que ça va être la tempête, on part à Quiberon. Avec mes potes, on part à Quiberon se balader parce que c'est trop bien. On met les cirés, on va se balader, c'est la tempête. Et on adore, quoi. Et en Catalogne aussi, c'est vrai que les balades à la mer, c'est quelque chose... il nous en faut peu, quoi. Mais par contre, quand il pleut, tout le monde reste chez soi. Là, c'est une différence.
C'est vrai. Il pleut moins longtemps qu'ici.
Oui, c'est ça.
Et une dernière question, Fanny, avant de terminer, sauf si tu as d'autres choses à ajouter, mais j'adore cette question, je prends le temps pour la dire, mais juste un mot qui pourrait définir le littoral. Je dirais pas lequel, juste le littoral.
En fait, je vais dire le premier mot qui m'est venu à l'esprit, Ça, c'est le jeu aussi, richesse. Mmh. Donc, du coup, le mot richesse, donc richesse pour la biodiversité, ces écosystèmes marins qui nous entourent, et c'est juste incroyable, quoi. Je pense au golfe du Morbihan. Et puis tu vas faire un tour dans les îles, enfin, c'est incroyable, quoi. Et aujourd'hui, c'est aussi des littoraux qui ramènent beaucoup de richesses. Ça relie aussi avec la thématique que j'ai abordée juste avant, qui attire. Mmh. Et c'est pas pour rien aussi que la majorité des populations aujourd'hui vivent sur ces littoraux. Mmh.
Mmh. Trop bien. Merci Fanny. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter que tu n'aurais pas dit et que tu as envie de préciser des perspectives? Un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la facilitation graphique ou qui aimerait approfondir le sujet?
Ouais. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Moi, j'adore partager mon expérience et donner des conseils. Mon nom de famille, c'est Didou. Je m'appelle Fanny Didou. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux. J'essaie de partager quand je peux, en essayant de déconnecter aussi des fois, parce que les réseaux sociaux, c'est vrai que ça prend du temps et c'est important de déconnecter aussi. Mm-hmm. Mais quand je peux et quand je pense que c'est des choses qui nourrissent, des recommandations aussi peut-être d'ouvrages, d'autrices... J'essaye un maximum de partager, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et on a commencé en parlant du réseau des villes en transition en introduction, parce que pour moi ça a été une révélation. Donc je vais finir peut-être sur un conseil lecture, le bouquin de Rob Hopkins, mm-hmm. qui c'est What If, et si on repensait les territoires de demain. Enfin, vous devriez trouver si... Et ça donne de l'espoir. Donc, je conseille aussi ce bouquin, Note de fin.
Trop bien.
Et puis d'écouter tous les épisodes du podcast des Femmes de l'Ouest, bien sûr. Ouais, merci beaucoup, Elisabeth. C'était hyper. C'était pas du tout prévu.
Non, pas
on
du tout.
On est allé manger ce midi et puis on est assises là, à Carnac.
Trop bien.
Devant la mer. À parler de ces villes qui nous lient et de ma pratique aujourd'hui. Merci de m'avoir donné le micro aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Merci infiniment pour avoir pris le temps d'écouter cette conversation avec Fanny. J'espère que ça vous aura donné quelques éclaircissements sur ce métier de facilitatrice graphique. De notre côté, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et nous rejoindre sur Instagram à @lesfemmesdelouest.podcast ou sur notre site internet www.lesfemmesdelouest.com. Et si ce projet vous plaît, vous pouvez le partager autour de vous, vos amis, votre famille et laisser 5 étoiles sur iTunes pour qu'il puisse continuer de rayonner.